Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans un monde nouveau, le magazine qui fait chanter les lendemains. Il existe une petite musique du changement, écoutez bien ce monde. Il y a des bruissements de révolution, des battements d'émancipation, des clapotis d'avenir, des ululements hybrides. Demain nous parle et parfois il nous dit ça. Dans sa langue natale, l'Inuktitut, la langue inuite, Mary Simon a prononcé son discours de gouverneur général du Canada à 74 ans. Celle qui a toujours défendu sa culture et son peuple devient la première autochtone à occuper ce poste et veut jeter des ponts entre les langues et les cultures pour réconcilier la société canadienne. Mes invités de ce soir recherchent le langage d'un monde meilleur, la langue des imaginaires avec l'essayiste Ariel Kirou et l'harmonisation du réel avec Chassol. Je solfie, tu solfie, nous solfions. Le monde nouveau est une partition.
France Inter. Mathilde Serrel. Un monde nouveau.
Des artistes et des idées, des dièses et des trémas, on pianote le futur jusqu'à 19h sur France Inter. Finally made some time for me. I'm happy, I'm calm, I'm jiggy, I'm sweet. I'm chasing my dreams, you're Aggie with me. Cause I didn't fit in the mold of your schemes. I'm reckless enough to go spend all my fees, but cautious enough to invest in my dreams. The vision, the board, the flying abroad, the Gucci, the Prada, you're lost in the sauce. I'm lost in the stew, I'm lost in the concept of fixing a brew. Identity crisis for me and my crew. We're black and we're British and African too, but so far removed. I'd like to go back to my mother's land. I'd like mental peace and a 100 grand and a pen. Babes and we'll do up raves like it's 98. I'm so 94, but I won't. Work a lot more money, a vacation home, a Nigerian honey who laughs at my jokes even when they're not funny. Support my cause and I'll support yours. Buy me a Benz, look, I'll buy you a Bimmer. Posted in Jamaica, Beanie Man, Sim Simmer, a Honda Accord. Who's got the keys to the Porsche? Force, he's got some keys to afford. I'm so flawed, but that's calm. I can't sleep, I take calms. Herbal remedies like tea for me. Gucci, drinking wine and cheese. Catch me in the dance, drinking wine, say cheese. You got that foot in your mouth situation. I got that foot up, my inspiration. World domination. But I sortir son premier EP Under 25, en dessous de 25 ans, c'est sa limite d'âge, mais c'est ouvert à toutes les oreilles. À l'instant, l'excellente Eni, nouvelle rappeuse britannique qui a fait une entrée fracassante dans le game musical. Lui, il plonge ses mains et ses yeux dans les entrailles de la fiction pour penser... E-N et A-N, le monde de demain. C'est un essayiste, c'est aussi un professeur d'histoire critique des cultures actuelles à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Il a publié une somme dans les imaginaires du futur aux éditions ActuSF et il est notre invité, Ariel Kirou. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pourquoi ce jeu sur
pensée EN et pensée AN, les imaginaires du futur.
Alors, penser, parce qu'on a besoin évidemment de réflexion, on a besoin de se plonger dans des mondes alternatifs et d'essayer de voir en ce en quoi ils peuvent nous orienter et nous aider à avancer. Donc la pensée avec un E est nécessaire, et la pensée avec un A, bah, tout simplement parce que la situation, comme chacun l'aura constaté, n'est pas très rose aujourd'hui, hein, entre les pandémies qui vont sans doute s'enchaîner les unes les autres, le fameux pass sanitaire, le réchauffement climatique. Aujourd'hui, je pense que toute personne un peu sensée a aussi envie de penser avec un A la planète, ou du moins l'humanité, parce que la planète survivra. Mais nous, si elle éternue, la planète, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il en restera.
Ce sera peut-être l'univers sans l'homme. La science-fiction, elle est aussi potentiellement mal en point, parce qu'elle est un petit peu coincée, elle aussi, au XXIe siècle, entre des imaginaires technologiques et des imaginaires effondristes.
Oui, ben c'est un peu l'un des points majeurs de mon essai, en fait, hein, c'est-à-dire de dire que il y a deux imaginaires aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres bien évidemment, il y a des imaginaires politiques, des imaginaires de la commune, hein, il y a une ribambelle d'imaginaires, mais il y a deux imaginaires aujourd'hui qui ont pris une importance assez forte, presque féroce, dans nos univers. C'est effectivement l'imaginaire technologique, c'est l'imaginaire démiurgique, c'est-à-dire je deviens un petit dieu via les technologies, ou un grand dieu, à la Elon Musk ou autre.
Un imaginaire solutionniste aussi, de celui de la science.
Solutionniste, transhumaniste, hein, on pourrait multiplier les istes pour qualifier ces imaginaires technologiques, hein, et puis de l'autre côté, il y a l'imaginaire collapsologique, l'imaginaire effondriste, l'imaginaire écologique au sens large, vis-à-vis duquel j'ai aujourd'hui peut-être un peu plus de sympathie, mais qui, au bout d'un moment, aboutit à au même blocage. Hein, c'est-à-dire que quand on nous dit qu'en 2025 tout va s'effondrer, qu'est-ce qu'on fait ?
Et comment est-ce qu'on écrit aussi de la science-fiction ?
Voilà, comment est-ce qu'on écrit ?
Si même chose. C'est la fin.
Voilà, même chose par rapport effectivement à la technologie. Si la technologie résout tout, qu'est-ce qu'on écrit ? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, hein ? Donc il y a une sorte de double blocage, en fait, hein, de sidération. Hein, donc les deux imaginaires pris l'un et l'autre séparément nous sidèrent, en quelque sorte nous coincent dans notre volonté de penser et d'agir. Et ensemble, c'est encore pire, puisque l'un est un imaginaire de la démesure, de l'abolition des limites, et l'autre est un imaginaire du retour aux limites, en fait, purement et simplement. Donc c'est encore pire quand on les met l'un à côté de l'autre. Donc, oui, la science-fiction aujourd'hui, contrairement à ce que certains peuvent dire, à mon sens en tout cas, elle a une immense carte à jouer pour nous sortir de cette double sidération.
Mais elle a en même temps un problème, la science-fiction, c'est que, et c'est pas à l'auteur que vous êtes, celui de Panofiction, traité du savoir-vivre pour une époque de science-fiction, et bien c'est que nous vivons dans la science-fiction. À partir du moment où on commence à écrire un livre, on est presque battu par le réel. Les scénaristes d'une série comme Black Mirror le savent, ou encore Margaret Atwood qui a écrit La Servante Écarlate, qui dit bah aujourd'hui finalement la dystopie va plus vite que moi.
Alors c'est à la fois vrai et faux. D'abord, il faut séparer l'utopie de la dystopie. Il faut bien comprendre que l'utopie et la dystopie, c'est la même chose.
Alors, la dystopie, c'est dans la dystopie. Ce monde sombre dans lequel on pourrait vivre. Voilà. L'utopie, un monde nouveau. Et
en fait, les grands auteurs de science-fiction comme John Brunner, par exemple, ou Philip K. Dick, ont toujours mis de l'utopie dans leur dystopie. Il y a toujours des graines d'espoir qui se nichent dans ce type de texte. Donc, on vit dans l'apocalypse. On l'attend pas. C'est pas hier. On est dedans, en fait. On est complètement dedans. Et à mon sens, parce qu'on est dedans, justement, parce que toutes les valeurs sur lesquelles reposait le monde d'avant s'effiloche, depuis un bon bout de temps déjà, au moins une cinquantaine d'années, on a besoin de se reconstruire des valeurs. On a besoin de se reconstruire des points de repère. On a besoin à la fois de nouveaux horizons, de mondes alternatifs vers lesquels on aurait envie d'aller, même si cela nous semble impossible. Et on a besoin de quelques petites pistes pour éventuellement explorer des chemins vers ces horizons. Et là, la science-fiction a un rôle absolument majeur. Parce que justement, elle définit un tas d'horizons alternatifs, de Alain Damasio à Catherine Dufour pour parler de français, et on pourrait citer beaucoup d'autres exemples, même des séries parfois, comme les Watchmen. Donc elle définit les horizons, et elle explore des petites voies, en quelque sorte, nous permettant potentiellement d'approcher de ces horizons. Ça veut dire qu'une science-fiction qui assume le fait que nous sommes, au fond, d'ores et déjà, dans la mouise intégrale, est absolument essentielle. Elle nous permet de retrouver le goût du temps, y compris en urgence, et de repérer les graines d'espoir, les signaux faibles, qui potentiellement, si on les suit, vont nous aider à construire autre chose. Hein, c'est ces fameux mondes alternatifs, c'est pas forcément des utopies, parce que l'utopie de l'un et la dystopie de l'autre, mais en tout cas, c'est des alternatives. Si les valeurs d'aujourd'hui, si le socle du monde d'aujourd'hui, en gros, est plus que jamais impossible, selon nous en tout cas, beaucoup d'entre nous, à suivre, si les questions de s'extirper peu à peu de cet hypercapitalisme destructeur, eh bien, on a besoin de fiction, on a besoin d'œuvres, on a besoin de récits à la fois du passé et du futur.
Et justement, Alain Damasio, qui signe, vous le citiez, hein, donc grand auteur de science-fiction contemporain, il signe, lui, la volte-face, hein, ni la post-face, ni la préface de votre ouvrage, la volte-face. Et il commence comme ça, « Ariel Kirou est un fou !» Un fou, pour prendre les imaginaires du futur au sérieux. Pourquoi c'est complètement
Alors pourquoi les prendre au sérieux?
Et pourquoi les prendre au sérieux?
Pourquoi les... Non, en fait, je crois que quand il m'a dit qu'il allait dire ça, en fait, hein, que j'étais fou, parce qu'il aime ça, voilà, hein, parce que tout simplement, il apprécie. Fou parce que il y a aujourd'hui, même si ça change peu à peu, une sorte d'idée reçue comme quoi la science-fiction, le fantastique, tous ces imaginaires, y compris dans des séries, sous toutes leurs formes, les jeux vidéo et autres, c'est quelque chose d'idiot, d'absolument inutile, qui ne sert qu'à se divertir. Et donc, voilà, ça c'est en quelque sorte le sens commun, en tout cas d'une certaine élite.
L'étiquette de sous-genre.
L'étiquette de sous-genre. Et il est lui-même convaincu, comme beaucoup d'autres, que c'est totalement absurde, en fait. Et donc l'idée de se dire, prenons le corpus d'œuvres de cinéma, d'œuvres de littérature, alors il y a moins de jeux vidéo, mais il y a des bandes dessinées, et traitons-les comme des, on va dire, des pièces pouvant nous accompagner dans la transformation, donc les prendre au sérieux, même si on peut en sourire. Eh ben, il a d'abord ça, effectivement, ça l'a beaucoup amusé, et surtout, ça lui semble à lui, comme je l'espère à d'autres, assez indispensable en tout cas. En tout cas, ça retourne un a priori.
Et dans sa pensée, comme dans la vôtre, il y a cet alliage en fait entre le monde intellectuel et le monde sensible, entre les traités philosophiques et en effet les BD, les séries, les jeux vidéo. Et dans le monde intellectuel, vous convoquez évidemment Donna Haraway.
La science-fiction remplit le monde d'entités qui le font bouger.
Penseuse américaine Donna Haraway, hein, et qui est évidemment importante dans votre ouvrage, puisque c'est quelqu'un qui a travaillé notamment le manifeste cyborg, le cyberféminisme, entre autres, ou aussi cette idée de vivre aujourd'hui dans le trouble. Et comment est-ce que finalement vous articulez, vous, ces deux mondes, le monde intellectuel et le monde sensible, Ariel Kirou?
Je dirais que je les articule tout naturellement, puisque je crois que le premier livre que j'ai lu de ma vie, c'était Martien Gaume, de Frédéric Brown, qui était un bouquin très drôle avec des martiens absolument insupportables, et que très vite je me suis mis à lire de la philosophie. Donc moi, l'articulation des deux, elle est de l'ordre de l'évidence.
Est-ce que finalement il n'y a pas un monde intellectuel qui ne s'est pas assez branché sur le sensible?
Oui, je crois qu'on peut l'affirmer tout à fait. Même s'il y a des gens comme Jean Baudrillard par exemple, qui lui était très sensible justement à ce type de fiction. Après, malheureusement, avant qu'il meure, Bernard Stiegler, qui m'a beaucoup influencé, lui aussi parle de penser avec un A plutôt que de penser. On avait des discussions et il commençait à envisager l'idée de ne pas n'inviter que des chercheurs dans tous ces colloques, aux entretiens du nouveau monde industriel. Malheureusement, il est mort il y a peu de temps.
L'année dernière.
Et je crois qu'il y a un chemin immense, en fait, immense, 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 pour relier ces deux mondes, la fiction et la pensée.
On va l'écouter justement, Bernard Stiegler.
Parce que nous sommes dans une immense crise du savoir. L'immense crise du savoir vient d'ailleurs d'abord du fait que ce savoir est complètement dépassé par l'accélération du rythme de la transformation d'abord technologique et ensuite des sociétés par la technologie. Ces start-up, les plus connues s'appellent Google, etc. Au départ, c'était une start-up Google. Maintenant, c'est le plus grand groupe mondial, le plus puissant, qui, eux, ont des chercheurs extraordinairement puissants, qui font des mathématiques, de la physique, de l'informatique, de la philosophie. J'aime bien rappeler quand même que le fondateur de Google, il a une thèse de philosophie. Voilà. Et il a étudié à la fois l'informatique et la philosophie. Ces gens-là, aujourd'hui, produisent des nouvelles formes de savoir technologique, mais qui sont des formes de savoir extrêmement dangereuses, parce qu'inachevées, ce ne sont pas des savoirs scientifiques.
Bernard Stiegler, dans À Voix Nue, hein, sur France Culture, entretien donné en 2020. Pour vous, Ariel Kirou, c'est quoi cette science inachevée, cette fausse science finalement de la Silicon Valley?
Je ne sais pas si c'est une science ou pas, mais en tout cas, on va dire que c'est toute la suite de la logique de calcul. C'est tout simplement des gens qui prennent par exemple l'intelligence ou son modèle logico-déductif, c'est-à-dire son modèle mathématique, et qui considèrent qu'au fond, même si Google, en fait, effectivement, Bernard Stiegler avait raison de le dire, est né du monde universitaire, contrairement à d'autres comme Twitter ou d'autres. Donc ce côté inachevé, c'est tout simplement que on ne peut pas se contenter du prévisible, des chiffres, le big data. Pour moi, il y a le seul big data qui compte. Cette data qui compte, c'est le data dada, c'est-à-dire les data dans lesquels on met du chaos, hein, pour parler comme Philippe Cadic, c'est l'homme variable, hein, c'est-à-dire celui qui met de l'imprévisible, c'est le grain de sable dans la machine, hein, c'est-à-dire l'humanité, la création, la poésie. Joue et se joue en permanence non seulement du prévisible, mais de l'imprévisible. Et ce que disait aussi Bernard Stiegler, c'est que pour bien désautomatiser, c'est-à-dire pour sortir de l'automatisme, il faut maîtriser les règles de l'automatisme, que quelque part, le monde numérique est loin d'être inutile, mais l'enjeu, c'est toujours de le dépasser, d'aller ailleurs, et pas forcément là où on attend qu'on aille.
C'est un art de la bifurcation, en fait, qu'il faut mettre en œuvre.
C'est-à-dire que c'est justement le point commun entre Donna Haraway, entre Alain Damasio, entre Catherine Dufour, entre Vinciane Desprez, voilà, avec son autobiographie d'un poulpe, Anat Singh, tous ces gens-là, en fait, dans lesquels je me retrouve, leur point commun à tous, c'est qu'effectivement, ils considèrent que si l'on veut des mondes alternatifs, si on a ce désir de bifurquer, je pourrais aussi citer mes amis de Multitude, comme Yves Citon ou Yann Mollier-Boutan, c'est une revue, ouais, tout à fait, la revue Multitude. On a nécessité quelque part d'aller au-delà du calcul. Quoi, la vie, ce n'est que calcul, c'est un ennui absolument mortel en plus. Je veux dire, mais à quoi ça sert? C'est totalement idiot et sans âme.
Et il y a notamment cette idée de travailler une soft fiction qui est développée notamment par Alain Damasio. Et finalement, c'est cette science-fiction qui se nourrissait d'ethnologie, de sociologie, de philosophie dans les années 70 qui va un petit peu s'étendre au profit d'une science-fiction plus technologique et puis de raviver finalement cet embranchement manqué.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs traditions dans la science-fiction. Là, je pense qu'on n'a peut-être pas tout à fait le temps pour que je les raconte toutes. Mais le fameux mouvement qu'on appelait la New Wave de la fin des années 60, très marqué par des auteurs comme Philippe K. Dick, J.G. Ballard ou John Brunner, avec Michael Moorcock, était dans l'anticipation sociale. Voilà. Hein, il faut que la technologie, tout comme l'environnement, tout le reste, participe d'un contexte beaucoup plus large. Et l'important, c'est l'humain et le non-humain.
Merci Ariel Kirou. Dans les imaginaires du futur, c'est publié chez Actu SF.
Il aime la musique et le cinéma. Il va au lycée, mais il déteste ça.
film d'un monde nouveau avec le duo perpignanais The Liminianas et la collaboration de Laurent Garnier. Les trois publieront un disque très attendu dont nous reparlerons sur France Inter. Ce sera en septembre 2021, des Pellicula. Un petit mot avec vous, Ariel Kirou, pour parler de l'objet, de l'appli, de l'outil qu'il manque au futur, selon vous.
Une carte participative, une boussole décoloniale pour nous aider à la bifurcation, nourrie de fragments de fiction du monde entier, en fait, pour s'y repérer. Des tas de fragments, on met un mot et on s'y retrouve, et on trouve des chemins et des horizons pour foutre en l'air le monde d'hier et aller vers le monde nouveau.
On lance le concours sur France Inter. Le monde est déjà nouveau sur France Inter et les signaux de transformation se multiplient. Encore faut-il les intercepter. Pour ça, j'ai du renfort. Julia Tissier, cofondatrice et rédactrice en chef de Chic, le média des nouveaux combats, et François Vey, rédacteur en chef de Zadig, la revue qui raconte toutes les Frances. On attaque avec vous, Julia, bonjour.
Bonjour Mathilde.
Et si la révolution commençait dans la salle de bain ?
On espère, l'industrie de la beauté est très normative, donc elle a tendance en général à mettre en scène des femmes blanches, minces, aux cheveux lisses ou aux cheveux bouclés, mais toujours domptées. Ça correspond à un idéal de beauté inatteignable pour le commun des mortels, puisqu'on sait qu'en France, les tailles les plus portées, on ne le dit pas assez, mais c'est le 40 et le 42. Mmh. Mais quand même, depuis quelques années, on voit apparaître ici et là des initiatives dans le monde de la cosmétique qui montrent des femmes au corps moins normé. Et fin juin, signe fort de ce changement d'air du temps, c'est l'artiste Iseult qui a été nommée égérie internationale de L'Oréal Paris. Et elle a d'ailleurs dit dans un communiqué, je cite, qu'être porte-parole de L'Oréal Paris lui donnait l'impression que les frontières de la beauté étaient levées. Donc on espère qu'elle a raison, évidemment. Et en effet, c'est pas tous les jours qu'une femme noire et grosse devient l'égérie d'une marque de beauté aussi mainstream. Et oui, j'ai bien dit grosse, car c'est comme ça que les militantes anti-grossophobie souhaitent qu'on les désigne, puisque ce n'est pas une insulte.
La coupe donc devient là, dans un tour de passe-passe, vecteur d'acceptation plus que de frustration, Julia.
Oui, c'est tout à fait le principe. On se réjouit en fait de voir une artiste comme elle accéder à ce statut, car elle est très inspirante et beaucoup de femmes vont à travers elle se sentir représentées. Des femmes racisées, des femmes grosses, toutes ces femmes en fait qui sont invisibilisées au quotidien dans l'espace public. Et accepter son corps, ça passe aussi par le fait qu'il ait une place dans la société, que ce soit dans la publicité ou dans les images auxquelles on est confronté chaque jour, en fait, dans la rue, dans les médias, sur les réseaux sociaux.
Merci Julia, merci pour votre optimisme aussi. On vous retrouve ainsi que vos articles pour Chic sur le site des Inrecuptibles et en kiosque dans le mensuel des Inrecuptibles. Quant à vous, François Vey, rédacteur en chef de Zadig, la revue qui part à la rencontre des Frances, bah justement, vous avez fait un portrait de cette chanteuse qui est peut-être une des plus importantes de l'été puisqu'elle a au moins 40 dates.
C'est absolument incroyable l'éclosion de cette artiste magnifique, de cette très belle, très grande chanteuse, 40 dates, vous imaginez la tournée que ça représente. On a fait un grand portrait d'elle dans le Zadig qui est en vente en ce moment parce qu'on trouve qu'elle raconte une histoire de la France, cette Ilse qui vient du Cameroun, dont le papa est cadre supérieur. Et puis, cette façon qu'elle a de dire, voilà, je suis noire, je suis grosse, je suis une femme qui a été empêchée de devenir artiste par mon milieu, par les préjugés. Et puis finalement, elle s'est lancée grâce à la télé-réalité, grâce à The Voice, grâce à Nouvelle Star. Ces émissions si décriées, ben, lui ont permis de se faire connaître, de prendre confiance. Après, ben, c'est pas tout, parce que effectivement, elle est prise en charge par Universal. On a essayé de lui faire de la variété un peu conventionnelle, je dirais. Et du coup, ça l'a conduit à la dépression, la malheureuse. Et elle en est sortie. Elle a créé sa propre équipe, sa propre structure. Elle a enregistré un deuxième album avec cette chanson qui s'appelle Corps, C-O-R-P-S. Elle a été révélation des Victoires de la musique. Vous vous souvenez de ce spectacle absolument magnifique qu'elle a produit? Nous, on a pu la voir là au Francofolie, ben, toute seule sur scène. Elle est extraordinaire de présence. C'est une artiste magnifique. C'est un joli parcours de ce qui est possible pour une jeune ben, qui en veut. Voilà, exactement.
Mais aujourd'hui, vous allez nous parler, François Vey, de Zadig, de toute autre chose. Il s'agit d'une littérature anti-carte postale. Vous nous emmenez à Tahiti, François.
Et oui, bah parce qu'il ne vous a pas échappé que le président est à Tahiti, il est en Polynésie depuis samedi, alors le voilà à 22 000 km de Paris, à plus de 22 heures d'avion, il y a 12 heures de décalage horaire. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut découvrir sur cette île volcanique au-delà des sublimes plages de sable noir? Eh bien, une littérature qui est à la fois âpre et violente, qui est portée par des écrivaines au caractère bien trempé, Chantal Spitz, et Titoua Péou, dont les romans ont révolutionné le regard qu'on peut porter sur les Tahitiens, très loin des douces baïnées et des beaux pêcheurs tatoués.
Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus ? Est-ce que vous pouvez nous présenter, François, ces deux écrivaines, Chantal Spitz et Titoua Péou ?
Mathilde, elles sont aussi différentes qu'on peut l'être. La première, c'est une petite dame aux cheveux gris, de 66 ans. Elle a le menton strié de tatouages. Et elle est issue de l'aristocratie locale, des descendants des premiers colons qui se sont mariés avec les filles de notables locaux. C'est une pionnière de la littérature tahitienne. C'est la première à avoir écrit un roman tahitien en français. Il s'intitule « L'île aux rêves écrasés ». Ben, le titre dit assez bien le propos. C'est la colonisation et l'évangélisation qui ont écrasé toute une culture orale ancestrale d'une incroyable richesse, où les femmes occupaient souvent une place de premier plan. Et cette Chantal Spitz, c'est une militante indépendantiste de la première heure qui s'est engagée contre les essais nucléaires dans le Pacifique et a dénoncé les ravages sanitaires et sociaux que ça a entraîné pour la population.
Et quant à Titoua Péou, pour vous, c'est un peu son opposé, François.
Oui, clairement, Titoua Péou vient d'un milieu excessivement modeste. C'est une forte femme qui a quitté Tahiti pour échapper à sa famille, qui a fait des études de philo et qui a écrit des romans noirs. Elle s'est fait connaître au début des années 90 par un premier roman qui s'intitule « Mutisme », mu-tiré-tisme, qui vient justement d'être réédité par les éditions au Vent des Îles. C'est un incroyable éditeur qui s'est développé à Tahiti tout seul depuis 30 ans en promouvant justement cette littérature qui est aussi forte que singulière.
Alors, dans la littérature de Titoua Péou, on est bien loin des images héritées des peintres Paul Gauguin et de l'écrivain voyageur Pierre Loti.
Complètement, c'est l'antithèse. Ces femmes, que ce soit Chantal ou Titoua, elles possèdent un style plutôt mal élevé. Elles font ressurgir toute une série d'histoires violentes, très longtemps enfouies. Elles racontent la réalité sociale d'une île paradisiaque pour les uns, qui peut se transformer en enfer pour les autres. Et il faut bien voir que Tahiti et la Polynésie sont aujourd'hui plus que jamais des lieux d'échange entre cultures, entre langues. Et Tahiti, c'est véritablement un lieu d'inspiration aujourd'hui pour s'inventer un nouveau monde, justement.
Et
cette petite île perdue au milieu du Pacifique, elle constitue un formidable laboratoire aussi pour la biodiversité.
François Vey, merci. C'est un monde déjà nouveau, hein, donc dans les Outre-mer. Et je rappelle que la revue Zadig a consacré une grande enquête aux Outre-mer dans son numéro 6 qui est encore disponible en librairie et en commande sur zadiglemag.fr. Il est pianiste et vidéaste. Il fait de l'ultrascore. On pourrait appeler cela de la réalité augmentée musicale, où les sons et les images ne font qu'un. Sa dernière création est peut-être la plus utopique et la plus accomplie, Ludie, qu'il défend en ce moment sur les scènes de France et de Navarre. Bonsoir, Chassol.
Bonsoir, Mathilde.
On parlait à l'instant des Outre-mer avec François Vey de Zadig. Vous avez fait cet album Big Sun en Martinique. Vous êtes d'ascendance martiniquaise. Vous voyez l'île de la Martinique comme un labo du futur.
Je pourrais le voir comme un labo du futur. C'est Miles Davis qui parlait de Kassav, c'est assez connu ça, tous les jazzmen disent oui, Miles Davis a dit que le zouk était le futur, tu sais. Moi, c'est une petite interview, je l'avais revue récemment. Mais non, sinon, si on parle glissant,
oui. Édouard Glissant, oui.
Édouard Glissant, sur le métissage.
La créolité du monde.
Voilà, qui apporte de l'inattendu, oui, ça peut être un des labos, mais tout est un labo.
Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux. Le jeu des paires de vers se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Il joue avec elle, un peu comme au temps où florissaient les arts. Un peintre a pu jouer des teintes de sa palette. Ce que l'humanité a produit au cours de ses ères créatrices dans le domaine de la connaissance. Des grandes idées, des œuvres d'art. Ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent ont ramené à des concepts et transformé en patrimoine intellectuel. Tout cet immense matériel de valeur spirituelle. Le joueur de paires de verres en joue comme l'organiste de ses orgues. Mais les siennes sont d'une perfection presque inconcevable. mal explore le cosmos spirituel tout entier. Leurs registres sont pour ainsi dire sans nombre. Et théoriquement, cet instrument permettrait de reproduire dans son jeu tout le contenu de l'univers. Les règles, l'écriture figurée et la grammaire du jeu constituent une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux. Le jeu des pervers se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Il joue avec elle, un peu comme au temps où fleurissaient les arts. Un peintre a pu jouer les teintes de sa palette. Ce que lui a à produire au cours de ses œuvres créatrices dans le domaine de la connaissance. Des grandes idées, des œuvres d'art. Ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent ont ramené à des concepts et transformé en patrimoine intellectuel. Presque inconcevable. Leur clavier et leur pédale explorent le cosmos spirituel tout entier. Leurs registres sont pour ainsi dire sans nom. Et théoriquement, cet instrument permettrait de reproduire dans son jeu tout le contenu de l'univers. Tout le contenu de l'univers. Tout le contenu de l'univers. Les règles, l'écriture et la grammaire du jeu constitue une sorte de langue secrète extrêmement perfectionnée qui participe de plusieurs sciences et de plusieurs arts, particulièrement des mathématiques et de la musique. Cette langue est en mesure d'exprimer le contenu et les résultats de presque toutes les sciences et d'établir des rapports entre eux. Le jeu des paires de vers se pratique donc avec toute la substance et toutes les valeurs de notre culture. Avec elle, un peu comme au temps où fleurissaient les arts, un peintre a vu jouer les teintes de sa palette. Ce que l'humanité a produit au cours de ses ères créatrices dans le domaine de la connaissance, des grandes idées, des œuvres d'art, ce que les périodes de spéculation érudite qui suivirent Mathilde ont donné à des conseils et transformé en patrimoine intellectuel, tu comprends Mathilde? Tout cet immense matériel de relation. Bah, le joueur de perles de verre, il en joue comme un organiste juré de ça avec ses orgues. Mais les siennes d'orgue sont d'une perfection inconcevable. Leur clavier et leur pédale.
Et bien sûr.
Explore tout le cosmos.
On réharmonise ce titre, Les Règles Chassol, l'extrait de l'album Ludi, rencontre entre le voudou d'Angelo et un livre de Hermann Hesse qui vous a énormément inspiré. Donc vous parliez à l'instant, Le jeu des perles de verre. Il s'agit d'inventer un langage idéal, utopique, qui combinerait la science et les arts.
Ouais.
C'était la quête de ce disque, inventer ce langage idéal.
Oh, la quête de ce disque, c'était de faire un espèce d'objet un peu avec un engrenage implacable, si je l'écoute à n'importe quel endroit, ou c'est un film aussi, il y a toujours un truc qui se passe, un engrenage marrant à regarder, un jeu quoi, une grosse boîte à jeu quoi. En fait,
c'est une boîte gigogne et c'est un petit peu comme ça que fonctionne au fond l'Ultrascore, cette écriture du son et des images que vous avez inventé, un enchâssement en fait de son, du réel, puis d'harmonisation, puis de réécriture. Maintenant par-dessus, en studio, en post-production, ouais. C'est du fond vert musical.
Oui, c'est vrai, il y a du fond vert cette fois-ci. En fait, par exemple, on a fait des tournages documentaires, on a filmé une école, la récré d'une cour d'école, on a filmé des gens qui jouaient aux jeux vidéo à Tokyo, et donc j'ai demandé à des chanteurs de rechanter les sons issus de ces documentaires. Donc par exemple, si quelqu'un me fait « Ah, t'as perdu !» Tu vois, donc je vais le faire rechanter, donc ça donne « Ah, t'as perdu !» Tu vois.
Ou par exemple, les règles de verre.
Le jeu des perles de verre.
Le jeu des perles de verre.
Le jeu des perles de verre.
Cyrine, une des petites filles de la cour de récréation captée par Chassol. Est-ce que c'est finalement un trait d'union, un tréma entre le présent et le futur, ces compositions d'Ultrascore, puisqu'il y a à la fois ce que vous captez et aussi le présent, ce que vous avez capté, ouais. Ce que vous attrapez aussi, hein, c'est une réalité vivante, on a l'impression d'y retourner, ouais. Et puis ce que pourrait être le son de demain.
C'est beaucoup figer le passé aussi, le figer, mais juste pour comme il est super riche aussi le passé, enfin le passé, le présent, tout comme tout ça est super riche, qu'il se passe plein de choses dans la même seconde, ça permet de le pas de le figer, mais ça te permet de l'explorer à fond, quoi, de l'ouvrir en mille morceaux, quoi. C'est-à-dire tu vois, tu peux regarder au fond à gauche de l'écran ce qui s'est passé pendant cette seconde que j'ai mise en boucle. Tu vois, quand cette fille dit « Le jeu des perles de verre, le jeu des perles de verre », elle a un petit rictus, elle tourne la page d'un bouquin, il y a un pied qui arrive en haut à droite de l'écran, donc ça je peux revoir, il y a un rayon de soleil qui passe entre les feuilles des arbres, et donc tu peux revivre un moment qui a été un moment du passé, tu peux le revivre à l'envi, quoi, avec une harmonisation en plus derrière, donc ça c'est pas mal.
Il vend bien son disque. Vous avez commencé à composer avec YouTube lorsque YouTube est arrivé en 2005. Enfin, vous faites de la musique et de la composition classique depuis l'âge de 4 ans. Mais lorsque YouTube est arrivé, vous avez commencé à travailler ces images et ces sons hybridés. Mm-hmm. Et comment ça se fait qu'on compose d'abord avec l'image chez vous ?
Moi, j'ai eu des épiphanies avec la musique de film. Bon, voilà, j'étais ado et je suis tombé sur, je sais pas, La Tour Infernale, La Malédiction, sur Jerry Goldsmith, sur tous ces gens, Ennio Morricone. Et j'ai vraiment eu une épiphanie avec sur la musique de film. J'ai découvert qu'il y avait un bac musique de film dans les magasins de disques. Et je suis tombé dedans et c'était un moyen et de gagner de l'argent et de faire quelque chose de hors format. Mes parents voulaient pas spécialement que je sois musicien, mais en leur disant que j'allais faire de la musique de film, ils se disaient, bon, peut-être qu'il va survivre.
Alors, on va justement voir si vous connaissez vos classiques.
Ah oui.
Voilà, pour vérifier que, par exemple, ça, vous vous souvenez de ce que ça vous a fait.
Bah oui, c'est La Tour Infernale. En fait, c'est Copland. On croit que... Enfin, c'est John Williams, mais c'est John Williams qui copie le style de Copland, le style vraiment la symphonie américaine avec ses gros accords de cuivre, ses grosses mélodies, c'est le western, le far west, tu vois, enfin vraiment, j'adore ces thèmes.
1974, La Tour Infernale.
Tom Newman, Steve McQueen.
Et le réalisateur John...
Frankenheimer ?
Non.
Non, pas du tout.
John Guillermin.
Ah, je le connaissais même pas, non,
voilà.
Je le savais pas.
Vous avez un demi-point.
Ouais.
Et ça ?
Oh, la planète. Tu me passes que mes madeleines, c'est The Hunt, La Planète des Singes, Jerry Goldsmith, 69, la Stravinsky, qui copie Stravinsky ?
L'Appel de la Forêt.
Là, ça, c'est The Hunt, La Chasse.
À la chasse. Attention, suivant.
What was she like ?
Oh, c'est Obsession, Brian De Palma, Bernard Herrmann.
On écoute.
How did
she die ?
Geneviève Bujold.
Cliff Robertson. Jean-Pierre Bougeot.
Jean-Pierre Bougeot.
I am Elisabeth.
Et Cliff Robertson dans Obsession de Brian De Palma. Un petit dernier pour la route Chassol.
Oh bon, ben, Ennio, hein. Ennio, mon nom est personne, avec Terence Hill.
Un western spaghetti franco-allemand.
Et aussi Henri Fonda, hein, dedans.
Oui, en 73, c'est réalisé par Tonino Valéry. Vous êtes pas très calé sur le réalisateur.
Non, mais
le compositeur, c'est ce que vous retenez d'abord.
Non, mais c'est Sergio Leone qui a produit le film et tout. C'est peut-être un autre qui a réalisé, mais c'est...
Non, mais c'est tout gagné parce qu'on était chez vous. Oui. Quand vous réfléchissez à la musique du futur, j'ai lu ça, Chassol, vous imaginez qu'il faut en fait essayer d'avoir plus d'attention à la musique.
Ah oui, je dis ce genre de choses, moi.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous imaginez des pièces plus longues et exigeantes
qui nécessitent
de l'attention.
Non, mais c'est juste, non, c'est pas ça. C'est que on voit manifestement que le monde va vers du plus rapide, enfin donc
du fragmenté.
Ouais. Et moi ça me gêne pas. Hein. J'y peux imaginer le ce qui va se passer dans le futur. Je sais pas, ça peut être juste une note quoi. Voilà, une note, un son. Tellement on arrive à radicaliser le propos. Et donc bon, évidemment, je pense que les artistes ils veulent se mettre un peu à contre-courant quoi pour proposer autre chose. Et bon voilà, si je devais faire un truc, ce serait plus une pièce longue qu'une pièce très courte.
Alors vous avez fait vous-même des musiques de films, notamment celle de Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi.
Ouais.
Black love is a beautiful thing. Black love is a beautiful skin. Black love, black love.
C'est du sucre.
Alors, c'est un film qui est drôle et en même temps qui arrache, on va dire, les stéréotypes et les clichés très fort, comme ça, qu'en sparadrap. Et pourtant, la musique que vous avez proposée à Jean-Pascal Zadi est très douce.
Oui, parce que en fait, bon, le dispositif du film, c'est comme un documentaire. Enfin, c'est quand même
un documentaire,
voilà.
Un faux documentaire.
Un faux documentaire. Et bon, j'imagine pas qu'il y a pas vachement besoin de musique, en vrai, quoi. Donc, la musique... elle se logeait dans les moments un peu dépressifs du personnage de Jean-Pascal, les moments où il sort du métro après une audition avec Kassovitz qui lui mesure les narines, des choses comme ça, quand il est un peu down quoi.
Et finalement, c'est vous qui êtes en charge de l'émotion dans ce film. C'est lorsque la musique arrive que les larmes s'autorisent un peu à arriver sur le visage du spectateur.
Vous trouvez, Mathilde ?
Oui, bah écoutez, c'est mon expérience personnelle. Je suis seule.
Non, moi j'étais en train de rire pendant tout le temps oui. Que j'écrivais cette musique.
Mais il y a aussi une scène hein, où il va être arrêté par la police et il va passer un temps très très étendu en garde à vue. Et là, soudain, il y a quelque chose comme une émotion qui se ferait un chemin.
Oui, c'est quand il retourne à la fin pour la marche et qu'il n'y a pas grand monde et qu'il y a quand même son père.
Alors vous avez aussi, Christophe Chassol, le sens du collectif. Vous avez collaboré entre autres avec Franck Ocean, Kerenan, Solange, Sébastien Tellier, vous avez été claviériste du groupe Phoenix. Et le collectif, finalement, c'est peut-être la plus grande règle de cet album, Ludi.
Bah oui, c'est vrai que, enfin, je sais pas, j'entends des gens dire « Oh, je me suis fait tout seul », enfin, je sais pas, des choses comme ça, mais c'est bon, on ne fait rien tout seul. Donc oui, cet album-là, il était beaucoup plus collectif parce que, bah, avec l'expérience de la tournée, de mon équipe de tournée, avec le batteur avec qui je joue, Mathieu Edouard, le manager, l'ingénieur du son, on écoutait constamment mes maquettes en discutant, on savait mieux le processus qui mène jusqu'au live, c'est-à-dire de l'idée dans la tête à la réalisation au premier concert. Il y a tout un enchaînement de choses, je sais pas, faire le mix de la version concert du film, enfin il y a mille et une étapes pour faire de l'idée à la réalisation, et on les connaît de mieux en mieux parce que c'est pas le premier film. Donc là oui, j'impliquais beaucoup plus les autres parce que leur
avis compte.
C'est pas, j'ai cherché un autre mot que avis et je voulais pas dire input parce que j'aime pas ce mot, mais leur contribution, leur talent quoi. Je suis épaté par les musiciens, je les trouve géniaux.
Il y a plusieurs règles dans les jeux, parce qu'il y a des règles pour classer les jeux. Non seulement il y a des règles de jeu et des règles du jeu, mais des règles pour classer les jeux. Et dans le livre dont vous vous inspirez, dans Le Joueur de Perles de Verre, il y a donc le simulacre.
Ah non, c'est chez Roger Caillois.
Ah, c'est là que vous l'avez piqué alors.
Ouais, la classification des jeux, c'est chez Roger Caillois, Des jeux et des hommes, ou un titre un peu comme ça, comme celui de Wisinga, qui s'appelle bon, Des jeux ou des hommes, ou je ne sais plus. Mais donc oui, il fait une classification des jeux qui est compétition, hasard, simulacre et vertige.
Et vous avez décidé de supprimer la compétition.
Oh, c'est pas que j'ai décidé de la supprimer, mais c'est que en faisant le film, je me suis rendu compte qu'en la supprimant, on faisait de meilleures parties.
Et est-ce que finalement c'est ça le sens profond de ce film et de ce disque Ludi ?
Alors moi, le sens profond, c'est regarder la beauté des accords, comment on passe d'un accord à un autre, comment c'est invisible, et pourtant c'est hyper puissant, enfin les accords, la musique. Et puis en chemin, j'ai découvert que quand on fait un jeu pour faire la meilleure partie possible, si on exite la compétition, on fait une meilleure, une plus belle et une meilleure partie. Bah, je sais pas, par exemple, deux mecs qui vont jouer au tennis, Ils décident qu'il n'y a pas de gagnant, ils vont faire là, des super beaux échanges. Et voilà, ils vont essayer de les faire durer, et ça va être beau comme une chorégraphie, quoi.
Donc la beauté des accords, c'est un peu avec vous la glu du monde. En tout cas, c'est avec ça qu'on arrive à réunir les gens. Alors, je vous ai demandé de m'apporter un exemple littéraire qui vous a guidé, puisqu'ici, on célèbre les 40 ans de la loi Lang sur le prix unique du livre. Mmh. C'est un exemple de conviction qui a abouti à une transformation du réel, qui a préservé la biodiversité, on va dire, dans la littérature. Et vous, vous avez choisi The Rest is Noise d'Alex Ross.
Ah oui, c'est pas vraiment un roman, c'est pas vraiment, enfin, mais c'est une œuvre littéraire pour moi, mais c'est bon, c'est une étude sur la modernité en musique au XXe siècle, comme il y en a beaucoup. Mais c'est écrit, c'est vrai que les histoires, il y a des anecdotes, c'est très fouillé et c'est écrit presque comme un roman, quoi. Donc on lit avec passion des anecdotes sur Gershwin, sur Stravinsky, Schoenberg, sur Steve Reich, sur John Adams, tout ça, et on comprend les chemins, le cheminement du XXe siècle, cette fausse idée un peu de la modernité. Voilà, on comprend tout ça, on comprend un peu l'impasse de la musique atonale, on comprend plein de choses comme ça. J'ai adoré. En plus, ça donne envie ça donne envie d'écouter de la musique. À chaque fois, je m'arrêtais parce que je voulais écouter je voulais écouter ce dont il parlait, quoi. Ça commence avec Strauss de Salomé et je connaissais même pas. J'ai passé la première page, la première page du bouquin. J'ai mis du temps avant d'aller à la deuxième parce que j'écoutais tout ce qui se disait. Voilà.
Alors, c'est le livre que vous offririez à un jeune musicien, avec, à mon avis, aussi le jeu des perles de verre, oui, d'Herman Hesse, qui a inspiré donc cet album, entre autres, et Roger Caillois à relire. Voilà
savez-vous
la bibliographie.
Comment s'appelait le sous-titre du jeu des perles de verre?
Dites-moi.
C'est Exercice de jeux musicaux.
Alors, c'était fait pour vous?
C'était fait pour beaucoup de monde. Parce que la musique, ça, c'est assez répandu. Beaucoup de gens aiment.
Ludie, c'est sorti chez Tricatel. C'est votre album à plusieurs. Vous poursuivez votre tournée de ciné-concert en Italie fin août. Hein, la Sicile, les Pouilles, rien que ça. Et puis à Paris, en Ile-de-France, à la rentrée, Rosny-sous-Bois le 4 septembre. Le festival We Love Green dans le bois de Vincennes le 10 septembre.
Avec plein de rappeurs. C'est le soir où il y a Niska.
Notamment Niska, oui.
Qui dote 13 blocs et Young Thug.
Et le 23 septembre au festival Bordeaux Rock.